I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left. Trot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip, Ricky.
Fever left, 75, Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 487 du podcast Jean Actu. Oui, 5, 6, 7, on avance 3 épisodes en 3 jours parce que la preview du Super Bowl connaît un nouvel épisode aujourd'hui avec Victor Roulier. Bonjour.
Et bonjour Alain, bonjour Grégory, bonjour à tous.
Et bonjour Grégory Richard, donc en effet.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Qui va gagner le Super Bowl, messieurs, genre pour de vrai? C'est l'heure de se mouiller. On a dit pourquoi les Rams allaient le gagner, pourquoi les Bengals allaient le gagner, pourquoi ils allaient le perdre. Maintenant, il faut se mouiller. On vous dit tout dans ce troisième épisode du Super Bowl avec les clés du match, les facteurs X et évidemment les pronos avec le dénouement tant attendu du concours de pronostics TDR.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong!
Yes, sir!
We're gonna work on three! One, two, three, work!
On a donc parlé des deux équipes en long, en large et en travers. C'est le moment pour nous de les faire s'affronter dans les facteurs X et les clés du match. On commence par les facteurs X, messieurs. On l'a dit, on a parlé des forces et des faiblesses, mais il y a des choses qui semblent moins sûres. Un des facteurs X de ce match sera-t-il le jeu au sol des Rams? La question que je me pose et que je vous pose, est-ce que les Rams ont un bon jeu au sol? Aussi simplement que ça.
Ils peuvent en avoir un. Ils peuvent en avoir un. On a vu des rencontres cette saison où Cam Akers avait montré des bons passages, où Sonny Mitchell également n'avait pas déshonoré depuis son arrivée du côté du Missouri. Tu vois, mauvais rappel du côté de la Californie. Non, après, c'est toujours la même histoire, et c'est ce que j'évoquais il y a quelques heures concernant Joe Mixon. C'est pas forcément d'un point de vue yards, purement production chiffrée, mais en tout cas, d'un point de vue alternance et crédibilité du jeu au sol, le duo en soi, Cam Akers, Sonny Mitchell, apparaît pas forcément déconnant. Après, on en a déjà parlé, il y a des aspects qui inquiètent un peu plus, mais de cet état de fait, ils sont capables d'apporter une menace, de représenter, pardon, une menace supplémentaire, tout en étant une menace potentielle au succès de leur propre équipe.
Ils sont à 94 yards par match en playoff, à peine 99 par match en saison régulière. Ils étaient la 25e attaque au sol de la Ligue. C'est quand même loin d'être impressionnant. Victoire en face. En plus, il y a DJ Reader, BJ Hill, Sam Hubbard, Trey Hendrickson. C'est pas gagné quand même.
Non, c'est pas gagné. Surtout que la ligne est pas impériale sur la course. Après, moi, il y a quand même quelque chose qui me perturbe dans l'approche de McVay sur ces playoffs. C'est que Cam Akers revient d'une très grosse blessure au tendon de machine. Sonny Mitchell a fait une grosse fin de saison. On pense ce qu'on veut de Sonny Mitchell, mais ces dernières semaines étaient vraiment très bonnes. Et pourtant, quand bien même Akers fait un fumble toutes les trois courses, on voit McVay s'obstiner à n'utiliser quasiment que Akers et pas Mitchell. Et pour moi, s'ils veulent réussir, il faut vraiment qu'ils utilisent le comité dans son ensemble, pas que K-Makers, parce que je pense que, après, je veux dire, je veux pas être trop violent avec K-Makers, parce que quand tu reviens d'une aussi grosse blessure, dont tout le monde pensait d'ailleurs que tu étais out pour la saison, tu n'es peut-être pas à 100% non plus.
Enfin, après, il s'est blessé au tendon d'Achille, pas au tendon de la main, hein, donc ça explique pas les ballons qu'il lâche.
Non, mais j'entends, mais je veux dire, dans la préparation physique, dans tout ça...
Oui. C'est un mauvais appui, tu baisses ta main, tu fais aïe, et puis du coup, bah, je sais pas.
Non, mais par exemple, si t'es pas au top physiquement, tu absorbes pas le choc de la même manière, et il peut t'impacter plus dans ta façon de toucher le ballon. Donc après, voilà, moi, je pense que oui, ça peut être un facteur X, oui, ça peut faire la différence, mais je vois pas de raison de ne pas utiliser Sonny Mitchell. Et je trouve qu'il a été sous-utilisé toute la saison. Et s'ils veulent vraiment être impactants, il va falloir utiliser toutes les armes qu'ils ont.
Greg, je vois à ton expression que tu as l'air plutôt d'accord avec ce problème d'utiliser plutôt K-Makers que Sonny Mitchell.
Oui, déjà parce que, si j'en parlais, mais parce que je pense qu'il y en a un qui est capable d'apporter une variété plus intéressante au niveau du jeu aérien. Je pense qu'en effet, K-Makers, c'est un gros projet de mémoire, c'est un deuxième tour de draft à l'époque en provenance de Florida State. Donc, on sait qu'il y a sans doute un intérêt plus intéressant pour Los Angeles de le tester massivement avant sa fin de contrat rookie pour savoir éventuellement ce qu'il peut obtenir dans les mois à venir. Mais oui, je pense que clairement, Sonny Mitchell est peut-être un peu plus rassurant dans ce domaine-là. Il a l'habitude des grands rendez-vous malgré tout. Faut pas oublier qu'il a disputé un Super Bowl, le fameux Super Bowl remporté avec les Patriots contre les Rams à l'époque, dans une année où il était d'ailleurs très très bon. C'est après que ça s'est un petit peu dégradé pour son état de forme et son rendu statistique. Mais voilà, là encore, d'un point de vue ne serait-ce que expérience et peut-être polyvalence, en tout cas variété dans ce qu'il peut apporter, Sonny Mitchell peut être une bonne solution. Donc ça va forcément être un facteur à surveiller du côté du jeu au sol des Rams.
D'autant que Mitchell, sur leur fin de saison, comme vous le disiez, il est très bon. C'est là où c'est assez inexplicable. Il gagne 5 de leurs 6 derniers matchs. Sur les 5 matchs qu'il gagne, Sonny Mitchell est à 121 yards, 79, 92, 131, 74 et il marque 3 touchdowns. Donc il était en pleine forme et c'est vrai qu'après, K-Makers revient. Et on se met à donner beaucoup moins de ballons à Sonny Mitchell, même au niveau des tentatives. C'est-à-dire que sur ces 5 matchs, c'est 24, 20, 18, 27, 19. Et là, en play-off, c'est 13, 1 et 10.
Ouais, c'est incompréhensible.
Et alors, juste si tu permets, alors, je ne sais pas si c'est dans les facteurs ou dans les clés, c'est un peu différent, parce qu'on va peut-être aborder d'autres aspects de l'attaque des Rams. Mais on parle de Sean McVay, il est censé avoir un coordinateur offensif qui, a priori, ne sera pas du côté de Los Angeles pendant très très longtemps, puisqu'il est très très pressenti du côté des Vikings de Minnesota, Kevin O'Connell.
Oui.
C'était déjà le cas, donc il y a 3 saisons maintenant, de Zach Taylor, quand il est parti du côté de Cincinnati. On savait qu'il était sur le point de rejoindre les Bengals en préparant son Super Bowl en tant que coordinateur offensif des Rams. On a vu qu'à l'époque, le play call n'était pas du tout excellent. Ça va être quand même un facteur à part entière de savoir comment Kevin O'Connell va réussir à préparer son plan de jeu offensif en ayant dans cette idée-là le fait que il s'est passé bien d'autres choses au cours de ces derniers jours d'un point de vue personnel.
En bref, on parle de facteur X. Donc, si ce facteur-là tourne à l'avantage des Rams, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre en place un jeu au sol efficace avec Mitchell, avec Akers, ils sont quasiment inarrêtables en fait, avec ça plus leur jeu aérien.
En tout cas, ils ont largement les moyens de l'être. Je te rejoins. Oui, c'est là aussi où c'est important et ça peut être un facteur à part entière. C'est aussi de savoir si on part sur un match offensif ou défensif. Je ne veux pas anticiper. Ce sera peut-être ce que tu évoquais tout à l'heure. Je ne sais pas. Mais voilà, les Rams se donneront sans doute plus de chances en partant sur un match offensif. Peut-être. C'est pas une certitude absolue ce que je dis. Mais en tout cas, ils ont la possibilité, en effet, avec un duo au sol suffisamment productif, de se donner un maximum de chances de réaliser ça et de pouvoir gagner à la longue.
Deuxième facteur dans ce match, l'expérience des Rams au Super Bowl plus match à domicile. Aucune équipe n'avait réussi à jouer le Super Bowl à domicile avant les Buccaneers l'an dernier. Ça fait 2 en 2 ans puisque les Rams joueront dans leur stade. Est-ce que c'est un avantage? Ils sont à 5 victoires pour 3 défaites en saison régulière. Après tout, on n'a pas l'impression qu'ils soient invincibles. Alors, ils sont à 2-0 en play-off. Mais Victor, est-ce que toi qui as été d'ailleurs dans ce SoFi Stadium cette année? Alors, c'était pour les Chargers. Mais est-ce que
c'était pour les Rams.
Ah, c'était pour les Rams, pardon. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était pour les Chargers. Est-ce que c'est un énorme avantage, toi qui y étais?
Non, je pense pas, parce que tu le veuilles ou non, Los Angeles, c'est pas une ville de sport, ou en tout cas, on va dire que la seule franchise qui a une vraie fanbase, c'est les Dodgers, puisque même les Lakers, quand tu commences à perdre trois matchs, il n'y a plus personne. Ils auront quand même cet avantage de dormir chez eux, d'avoir leurs petites habitudes, de machin, tout ça, ok, ça c'est vrai, et ça joue. Mais le stade est construit comme une salle de spectacle plus que comme vraiment. Enfin, c'est pas un stade comme Arrowhead ou le Century Link Field où tu rentres et tu te dis oh là là, vraiment là, je ressens la pression et tout. Je suis même pas sûr que leurs appels de jeu, par exemple, parce que souvent c'est ça le grand avantage d'être à domicile, c'est les appels de jeu de l'adversaire sont un peu perturbés. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de monde pour perturber les appels de jeu des Bengals, donc. Pour moi, c'est un avantage très limité.
Je sais pas où tu étais situé, toi, en tribune de presse, Greg, mais moi, les seuls gens que j'ai vus qui perturbaient les appels de jeu sur un Super Bowl, c'était des jeunes gens assez aisés, mais bourrés, qui gueulaient, du coup.
Je n'ai pas ce souvenir-là. Mais oui, voilà, en l'occurrence, je me demande presque si ce n'est pas l'équipe, au-delà, bien entendu, des fanbases un peu classiques, mais si tu viens en tant que spectateur un peu neutre. Je me demande si ça va pas, en fonction du scénario, ça va pas aussi vers l'équipe qui propose peut-être le plus beau jeu ou ce genre de choses. Donc, je rejoins ce qu'a dit Victor, c'est pas forcément acquis que les Rams aient cet avantage, non seulement du fait que les appels adverses soient brouillés, mais en plus, tout simplement, qu'ils aient une ferveur populaire derrière qui puisse les transcender, c'est sûr. C'est pas forcément garanti, ouais.
En plus du stade, on met quand même à leur avantage l'expérience parce que les Bengals ont beau avoir peur de rien, il y a un moment où ça peut te rattraper, alors que les autres, eux, connaissent pour la plupart, en tout cas, l'expérience de ça. Ils ont Von Miller qui est MVP du Super Bowl dans leur effectif. Tout ça, ça joue quand même à l'avantage des Rams.
Oui, clairement. Bah, encore une fois, je ne vais pas faire de la redite avec ce qu'on a déjà dit par rapport à ça, mais voilà, il y a des joueurs, en effet... Qui ont cette volonté dans un âge assez avancé de leur carrière de pouvoir vraiment, de pouvoir enfin réussir à aller chercher ce titre. Je sais par exemple que Victor, dans une précédente émission, pour faire écho à Aaron Donald, même si ce n'est pas Donald que je vise là-dedans, parlait de Reggie White par exemple, qui a couru pendant très très longtemps avec les Eagles et qu'il a eu très très tard, justement en ayant rejoint les Packers dans la foulée. Voilà, quand on est dans cet état d'esprit-là et qu'on se dit ça y est, c'est peut-être ma fenêtre. Ça peut faire la différence. Je pense que c'est en tout cas un élément qui transcende un petit peu plus. Alors, ça ne veut pas dire que les Bengals n'auront pas des raisons d'y croire plus que ça dans une AFC extrêmement compétitive où ils ont réussi à s'extirper de manière surprenante. Mais oui, forcément, l'expérience, c'est quelque chose qui sera à surveiller et qui peut être un facteur prépondérant.
Alex, alerte Factor X, équipe spéciale, messieurs Factor X, les kickers. 12 sur 12 pour Evan McPherson sur les field goals en 3 matchs de playoff pour les Bengals. Matt Gay, lui, est à 32 sur 34 en saison, mais 7 sur 9 depuis le début des playoffs avec un raté entre 40 et 49 yards et un raté de plus de 50 yards. Avantage net aux équipes spéciales des Bengals.
Ça y ressemble. En tout cas, sur le kicker, ça a l'air de pencher quand même un peu plus vers McPherson que sur Gay, je suis d'accord.
Et en plus, il paraîtrait que... Alors, est-ce que c'est une excuse ou autre, mais que Gay serait aussi un peu blessé, donc... Ce qui expliquerait sa difficulté à mettre de la puissance dans la balle. McPherson, c'est un phénomène comme on en a rarement vu. Enfin, je veux pas faire un peu survent de trucs, mais c'est quand même un. Enfin, ce côté du mec qui a peur de rien et qui tape des coups de pied de façon décisive sans se poser de questions,
c'est
ça fait
le
un peu
des
Vinatieri.
Équipes spéciales, en fait.
C'est un peu Vinatieri début des années 2000 là sur le premier triplé quoi. Je trouve que c'est ce genre de joueur, il a l'air d'être complètement hermétique à la pression et du coup c'est ce genre de joueur ça plaît ça.
Ah bah oui, Greg l'a bien dit, ça a été un peu noyé dans le son, je sais pas si les auditeurs ont entendu, mais donc tu disais c'est le Joe Bureau des équipes spéciales.
Ouais, clairement, mais c'est encore plus important. Alors, c'est sûr qu'on va donner l'avantage aux Bengals là-dessus, mais c'est un facteur à part entière. Alors, les Rams ont gagné 2 matchs sur 3 grâce à un field goal tardif, qui n'était pas vraiment au buzzer, entre guillemets, pour prendre une image basketistique, mais en tout cas, voilà, qui a vraiment fait la différence en fin de match. Mais les Bengals ont gagné. Je fais toujours attention aux mots que j'emploie, mais j'allais dire n'ont gagné que grâce à ça, mais en tout cas ils ont toujours été dans des situations où ils gagnent grâce à un field goal, donc forcément déjà de facto le kicker aura une part importante dans le potentiel succès des Bengals. Parce qu'on voit qu'il y a souvent des succès, il y a souvent des rencontres qui restent assez accrochées, sur lesquelles il faut se battre jusqu'au bout. Et donc, il n'y aura peut-être pas que l'attaque et la défense qui auront besoin de mettre le bullet chauffe du côté de Cincinnati. Donc voilà, c'est pas négligé très clairement le kicking game des Rams. Encore une fois, Matt Gay n'a pas non plus un pourcentage catastrophique, même si en effet, il y a des loupés un peu plus préoccupants que du côté de Cincinnati. Mais c'est sûr qu'il y a l'avantage pour Cincinnati. Après, pardon, il y a le jeu des retours qui va être important à surveiller. Là aussi, on a vu Taylor assez précieux de temps en temps du côté de Cincinnati. Il me semble que c'est Brandon Powell du côté des Rams qui a l'air de montrer des choses assez intéressantes malgré tout. Ça s'équivaut un peu, mais pourquoi pas, sur phase de retour, ça peut aussi être quelque chose à surveiller. Les Rams n'ont pas forcément une équipe spéciale aussi impressionnante qu'ils pouvaient l'avoir, notamment lors du Super Bowl 53 joué face aux Pats. Mais c'est pas une équipe à sous-estimer dans ce domaine-là pour donner la réplique à une solide équipe spéciale des Bengals.
Factor X, clé du match, Factor X, tout ça se mélange, on continue après un jingle. Oui, parce que ça se ressemble un peu hein, les uns et les autres quand même, il faut le dire. Les clés du match, la ligne offensive des Bengals contre la ligne défensive des Rams, ça paraît être le premier match-up. Là, dans les clés, on est vraiment sur des match-up qui vient à l'esprit. On en a parlé déjà dans ces previews, mais il faut le rappeler parce que oui, ça reste quand même un des éléments décisifs. On a vu ce qui est arrivé à Patrick Mahomes l'an dernier quand sa ligne a craqué. On rappelle quand même les noms des cinq qui vont être devant Joe Burrow, Jonah Williams, Quinton Spain, Trey Hopkins, Hakim Adeniji et Isaiah Prince. Est-ce qu'ils peuvent tenir face à Aaron Donald et Von Miller? Alors, vous l'avez dit, c'est en deux temps. C'est-à-dire que visiblement, c'est inquiétant sur la passe, c'est intéressant sur la course, si je résume, Grégory.
Ah, c'est beaucoup plus rassurant, en tout cas, sur la course. Sur la passe, ils n'ont pas toujours été catastrophiques cette saison, mais là, on voit en l'occurrence que dans des phases de play-off où forcément l'aspect défensif est beaucoup plus notable, il y a des rencontres. Alors, voilà, c'est sûr que forcément, on va prendre l'exemple des Titans où c'est vraiment là où le pass pro a été en dessous de tout et a vraiment mis une pression excessive sur les épaules de Joe Burrow. Heureusement, ça n'a pas toujours été ça sur les matchs de Bengals. Mais voilà, on ne va pas le répéter. Il y a eu un nombre de sacs assez conséquent et les principales stars défensives du côté des Rams vont être sur le pass rush. On parle beaucoup de Von Miller, on parle beaucoup d'Aaron Donald à raison. Mais c'est vrai qu'il y a un profil, par exemple, comme Lennard Floyd, très polyvalent, qui peut apporter beaucoup, que ce soit sur le jeu au sol d'ailleurs, ou sur la pression, justement, quand on sait que Miller et Donald vont sans doute libérer des brèches. Donc voilà, c'est forcément une clé non négligeable, dont on parle déjà depuis deux jours, mais c'est une des principales, donc ça mérite d'être rappelé à ce propos.
Victor, j'ai parlé des cinq. Mes excuses. Je pensais réussir à poser ma question et à couper mon micro avant. Bon. Excusez-moi. Victor, j'ai parlé des 51 sacs autorisés par les Bengals. Les Rams en ont réussi 50. C'est le troisième total NFL hein, quand même.
Oui, oui.
C'est non, pour ça qu'on insiste là-dessus. Quoi.
C'est clairement une des clés du match. Après, encore une fois, je pense que Burrow, qui est un sophomore, a quand même progressé toute la saison au niveau des interceptions, mais au niveau de la gestion des sacs et de la pression. Alors, il y a eu le match contre les Titans où c'est parti en vrille. Mais malgré tout, je pense que c'est plus facile à gérer, enfin facile, bon, avec des grosses guillemets, mais aujourd'hui qu'il y a deux semaines, je pense qu'il progresse semaine après semaine. Après, oui, il va prendre des grosses vagues. Il va prendre des grosses vagues et ça va pas être rigolo. Bon, après, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'il va avoir de la pression, il a ce qu'il faut pour surmonter. Mais il y a aussi un monde où il explose totalement et on n'a pas de match parce que en effet il peut pas bouger et c'est la clé du match.
Eh ben tu fais bien. Alors on va se mouiller un petit peu pour ces clés là. Oui ou non, il réussit ou pas à s'en sortir ou les Rams tuent le match là-dessus. Je sais que Greg adore ce genre d'exercice.
Bah du coup on casse notre pronostic de la fin du match. Là, tu veux qu'on donne notre...
Oui, parce qu'à mon avis, le pronostic, il dépendra beaucoup de...
Bah oui,
on y arrivera, mais donc, dis-moi qui gagne ce match-up.
Pour moi, le match-up, il est gagné par la défense d'Arms, mais...
Au moins, le match-up est gagné par la défense des Rams, mais pas autant qu'on ne le pense.
Très bien. Autre match-up, Chase contre, Jamar Chase contre Jalen Ramsey. Jamar Chase, 81 réceptions, 1455 yards et 13 touchdowns cette saison. Jalen Ramsey, 4 interceptions. On en a déjà parlé, on devrait les voir pas mal face à face. Chase, il a été limité à 54 yards par les Chiefs, d'ailleurs. Comment ils ont fait?
Bah, on a vu qu'il y avait un bon plan établi en première mi-temps de la part des Chiefs. Ça a été un peu plus compliqué par la suite, enfin, en tout cas pour contenir sur la durée. Est-ce que les Bengals aussi ont peut-être pas essayé de miser sur d'autres armes plutôt que de lancer principalement sur Jamar Chase, parce qu'il n'était pas non plus ciblé à outrance, je trouve, en première mi-temps. Mais en tout cas, on a vu par exemple qu'un Ward n'a pas rendu une copie aussi catastrophique que ça pour un cornerback qui est peut-être pas un numéro un sûr et certain contre Jamar Chase. On voit notamment sur le touchdown que il a fallu que le receveur des Bengals, aille le chercher. Mais c'est vrai que voilà, ça démontre aussi que, et on a peut-être tendance à l'oublier, Jamar Chase reste un rookie. Il y a un talent qui est indéniable. C'est peut-être un talent générationnel, comme dirait quelqu'un que je connais plutôt pas mal. mais du coup, voilà, est-ce que la marge va pas être trop haute à un moment donné, surtout face à un talent comme Jalen Ramsey? Ça, c'est la principale question. Est-ce qu'il va vraiment, enfin, on parle beaucoup de Joe Burrow, mais c'est un match où vraiment Jamar Chase joue. Un peu déjà écrire une grosse part d'histoire, parce que réussir déjà une saison rookie aussi historique qu'il l'a réussi. Alors, c'est vrai que Justin Jefferson était déjà arrivé de manière assez remarquée l'année dernière.
Un titre, ça change tout. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Tu passes vraiment dans une autre dimension quand, dès ta première saison, tu arrives à transformer encore plus qu'avant l'attaque de Cincinnati. Joe Burrow n'avait pas fait la saison complète en 2020, faut pas l'oublier. Mais les Bengals étaient numéro 5 de la draft quand Jamar Chase est recruté. Donc voilà, ça t'aide aussi à passer une dimension. Et si tu arrives en plus à réaliser ça contre celui qui est sans doute aujourd'hui le cornerback numéro 1 de la Ligue, je pense que ça veut dire beaucoup. Donc voilà, c'est doublement intéressant parce que voilà, j'en avais parlé... Jamar Chase n'a pas encore rencontré vraiment de cornerback de cette trempe-là. Donc voilà, c'est un match dans le match et on ne doute pas que Jalen Ramsey va beaucoup parler. Il va falloir qu'il boive un peu d'eau quand même avant le match parce que je pense qu'il va beaucoup, beaucoup parler sur ce match-là. Mais voilà, c'est forcément une clé du match et le vainqueur de ce match-up-là peut déterminer le vainqueur final.
Allez hop, c'est qui le vainqueur de ce match-up-là? Combien de yards pour Jalen Ramsey, pour Jamar Chase?
Je pense quand même qu'il peut franchir la barre des 50. Je le vois pas franchir la barre des 100, pareil.
D'accord, Victor.
Il franchit la barre des 100.
Il franchit la barre des 100. Donc ça donne des bonnes chances aux Bengals, tout ça. Autre clé du match, l'efficacité dans la zone rouge. 4 sur 11, c'est le ratio de touchdown pour le nombre de passages dans la zone rouge des Bengals en playoff. Ils ont eu du mal à se détacher à cause de ça. Pourquoi ils ont autant de mal dans les derniers mètres, Victor?
En général, quand on a du mal en red zone, c'est avant tout le coaching. Pour moi, après, c'est vrai que l'absence peut-être d'un bulldozer en running back joue peut-être là-dessus, mais globalement, des cibles en red zone, ils en ont. Jamar Chase, il est très bon là-dessus. Higgins, c'est pas un peintre quand il s'agit de faire de la séparation, de gagner des 50-50. Donc, je pense qu'ils ont les armes, ils ont juste pas réussi à les utiliser. Donc, je mettrai la faute au niveau du coaching, mais oui. C'est récurrent depuis deux matchs et c'est quand même, pour moi, la clé la plus importante pour Cincinnati, peut-être même beaucoup plus importante que leur ligne offensive. C'est si tu vas quatre fois en red zone, faut en sortir trois fois avec un touchdown. Tu t'en sortiras pas avec 12 points au pied.
Greg, je modère un petit peu. Les Rams ont été à 3 sur 4 dans la red zone contre les Cardinals. Et ensuite, ils sont à 2 sur 5 contre les Buccaneers, 2 sur 6 contre les 49ers. Donc, la tendance n'est pas très bonne pour eux non plus. Est-ce que c'est le coaching aussi? Est-ce que du coup, on a deux problèmes de coach dans la
raison? Là, de toute façon, c'est une clé à part entière parce que je pense que des deux côtés du ballon, y a forcément des éléments qui n'inspirent pas une énorme confiance dans le rendement global et dans la faculté à marquer les touchdowns. C'est aussi pour ça qu'on en revient au kicker et à leur rôle important. Hein, c'est qu'on n'arrive pas toujours forcément à conclure comme il se doit. Tu l'as dit, il y a eu cette bonne prestation contre Arizona, mais on a l'impression que les Rams jouaient les yeux fermés contre Arizona et gagnaient le match, en exagérant un petit peu, en voulant me faire des amis du côté des fans des Cardinals. Mais non, sans exagérer, mais c'est vrai que voilà, je rejoins Victor, ça rejoint aussi peut-être les choix du coaching staff et aussi le fait qu'on va avoir affaire à deux head coachs quand même relativement jeunes malgré tout. Hein. C'est vrai que Il y a aussi ces prises de décision où on va un peu osciller entre le côté on y va de manière un peu burnée ou le côté bon, on va peut-être pas prendre trop de risques, c'est bien de capitaliser sur des points aussi dans un premier temps. Et forcément, ça peut être au détriment, ça peut être au détriment du jeu offensif, surtout par rapport à certains points faibles qu'on évoquait, à savoir le jeu au sol d'un côté et la ligne offensive de l'autre.
Qui va être le plus efficace en red zone? Un nom.
Les Bengals ne peuvent pas être mauvais en red zone, je pense. Hein.
Ouais, moi je donne les Bengals aussi.
Très bien, j'aurais dit les Rams, tu vois. Les turnovers, on l'a dit dans l'émission précédente, les Bengals sont très opportunistes, plus 5 de ratio, les Rams sont à 0. C'est évidemment impensif de dire qu'il faut gagner la bataille des turnovers au Super Bowl. On ne va pas rappeler tout ça. Qui va gagner la bataille des turnovers? Je vous demande juste ça.
Les Bengals.
Je vois ce qui se dessine du côté de Victor.
Oui, moi aussi. Ouais. C'est franchement un éléphant dans un magasin de porcelaine. les stats m'amènent forcément à dire Bengals. Après, on voit que Joe Burrow, par exemple, c'est une interception sur ses deux derniers matchs. Et par rapport à la pression que j'évoquais tout à l'heure, je vois pas une équipe gagner la bataille des turnovers. Je pense qu'il y aura la même de chaque côté. Paf, réponse de Normand.
Très bien, allons au pronostic.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
C'est le grand moment, messieurs. On peut plus reculer, il faut se mouiller. Les pronostics, il faut donner un vainqueur du Super Bowl. On a passé tous les arguments en revue. Je vais vous en donner un dernier parce qu'on s'est posé la question, est-ce que ce sera un Super Bowl offensif ou défensif? On a deux équipes qui ont toutes les deux maintenu leurs adversaires à moins de 20 points de moyenne lors de leurs trois matchs de playoff. Donc, on s'oriente peut-être plutôt vers un match, en tout cas pas flambé, je vois pas du 35-32 ou quelque chose comme ça, plutôt autour de la 20-25e pour gagner, quoi.
Ouais, ça me paraît raisonnable.
Ouais, clairement.
Alors, c'est le moment de le dire. Est-ce que vous voulez que je donne les résultats des pronos d'abord pour expliquer?
Oh, c'est pas la peine.
Non, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas de gagnant cette année.
Alors, écoutez,
franchement,
il faut le dire, la semaine dernière, on a tous fait 1 sur 2, sauf Lucas qui a continué de s'enfoncer au classement avec un 0 sur 2. Lucas, c'est son lot de consolation hein, d'aller à Los Angeles, je vous le dis, parce que c'est clairement…
Ça a changé les gages, je t'ai aidé à
oui, là, gage, c'est pas mal. Bon, du coup, au classement, Raphaël Masmejean, 199 points, 195 points pour Victor, 194 pour moi, 192 pour Raoul, 186 pour Greg, 181 pour Lucas. Lucas, il est quasiment 20 points derrière Raphaël. Quoi. Donc, 4 points d'avance ouais, pour Raphaël. Donc, victoire.
C'est pas 4 points le Super Bowl?
Non, c'est 2. On a dit 2 pour tous les matchs de playoff. À une époque, on trichait, on augmentait le nombre de points.
Bah ouais, grave.
Ça reste.
Moi, je pense que si Raphaël avait eu du panache, il aurait proposé que.
Ouais, mais c'est pas son genre.
Pas 5 points, mais pour ça vous dire. Ça a l'air d'être son genre.
Pour vous dire. À mon avis, il fera pas d'annonce sur Twitter pour dire qu'il est prêt à réengager les points et mettre 4 points au Super Bowl. Le connaissant.
Bon, c'est ça.
Pour vous dire, il y a une année, j'étais tellement largué, on avait fait 10 points sur le Super Bowl. Hein, mais bon. Donc, on va dire 2 points. Moi, je regrette, à un moment, je regrettais d'avoir pas inversé mes pronos pour essayer. J'avais mal calculé. Je pensais que j'avais plus aucune chance pour la première place, mais il aurait fallu que je fasse tout l'inverse de Raph et que j'ai bon.
Oui, mais moi, j'ai fait tout l'inverse de Raph et du coup, ça fait 1 sur 2.
Mais en fait, mon truc, c'est que je pouvais pas à la fois doubler Raph et toi, je crois. Il y avait un truc parce que
vous ne preniez pas ensemble. Tu pouvais pas. Comme on avait joué l'inverse, tu étais forcément derrière un des deux.
C'est ça.
Si c'est moi qui avais été leader, là, tu pouvais tous les deux nous dépasser en nous contrant au Super Bowl. Enfin, bon,
voilà, mais après, ça faisait des probabilités hyper basses, en fait. J'ai regretté 5 minutes, mais après, j'ai compris que les probabilités étaient quand même compliquées. Bref, du coup, on l'a dit, Raphaël a gagné, mais il reste encore des choses à jouer. Enfin, pas la dernière place non plus, parce que Lucas ne peut plus remonter. Donc, y a le podium qui va s'organiser.
Le cinquième est déterminé, je crois. On est combien? On est 5 ou 6?
On est 5. 6. 6.
Oui, ouais. C'est ça, la cinquième place.
Le cinquième, c'est Greg.
Le cinquième, c'est Greg. Ça va se jouer sur le podium. Alors, moi, je vais l'annoncer tout de suite. Je vais avoir du panache. Je vais jouer l'inverse de Victor pour essayer de le dépasser, parce que j'ai un point de retard. Donc, je vais essayer quand même de prendre la.
Donc, dans ce cas-là, je devrais jouer safe place. Et parier les Rams. Ça.
Tu prends ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux.
Mais est-ce safe de parier sur les Rams? C'est la question.
Donc, Victor Roulier, c'est à toi, parce que tu es le mieux classé.
D'accord.
J'ai eu peur, j'ai cru que sa connexion allait planter à ce moment-là, comme par hasard.
Non.
Il y a eu un petit lag.
Pour le coup, je dois avouer que c'est un des rares Super Bowls où j'aime les deux équipes, les deux me feraient plaisir. Mais je me suis vendu dès la première phrase du premier des trois podcasts. J'ai dit que j'avais l'effet Coupe de France. Et ben, je continue avec mon effet Coupe de France. Je vais miser Cincinnati, même si ma raison me dit que le plus probable, c'est Los Angeles. Mon cœur me dit, allez, le premier titre pour l'histoire de Cincinnati. C'est beau quand même des franchises qui gagnent leur premier titre.
C'est vrai. Donc,
surtout une franchise qui a déjà perdu des Super Bowls comme ça, parce qu'il faut le rappeler, dans les années 80, perdre quand même deux fois contre les Niners. J'ai envie de récompenser cette fanbase, j'ai envie de récompenser cette équipe. Et bon, après, ça marchera ou pas, mais pour le symbole, ça sera Cincinnati.
Tu sais ce qui est encore plus beau que les Bengals qui gagnent leur premier titre? Les Rams qui gagnent leur deuxième titre dans leur maillot blanc, bleu et jaune, le même que Kurt Warner quand il gagne le Super Bowl contre les Titans. Même maillot, un petit peu modernisé.
Ouais, légèrement.
J'ai pas ta nostalgie du Greatest Show on Turf.
Voilà.
Et pour le coup, c'était dans le Missouri, c'était pas Los Angeles, donc c'est même plus la même.
Non, mais alors, moi, ce que j'allais te dire, c'est qu'en général, en Coupe de France, le petit Pousset, il arrive en finale et il se fait battre par le PSG. Et là, tu vois, là, le petit Pousset Cincinnati, tu vois, de la petite ville, ils vont arriver en finale contre Los Angeles, la grande ville.
Mais il n'y avait pas eu un truc de Breton, là, où Guingamp avait battu Rennes, ou j'en sais rien, là.
Je sais pas, moi, je sais. Dans mon coin, je sais juste que Quevilly a perdu.
Non, mais moi, si tu cherches des années de soccer, t'as pas frappé à bonne porte.
Ah bah attends, moi je dis ça, mais je me rappelle même plus de l'année. Hein. J'ai pas suivi plus que ça.
Je vais m'abstenir.
Pourtant, Amiens est en quart de finale de Coupe de France. Hein, je dirais.
Oui, c'est vrai. Après une victoire contre Nancy.
Voilà.
Et j'ai pas assez.
N'extrapolons pas, monsieur Roulier. Non.
Pendant ce temps, moi, je suis en train de taper finale Coupe de France Quevilly sur Google pour en apprendre plus. Ah, ils ont perdu contre Lyon en 2011-2012. Voilà.
Ah voilà. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'on fasse preview podcast 2. Le PSG, c'est les Rams. Ou l'inverse, d'ailleurs.
Preview podcast, Amiens va-t-il remporter la Coupe de France? Ça, c'est un vrai, podcast. C'est
non, parce que leurs joueurs surpayés à eux, ils gagnent aux Rams.
Je ne m'engagerai pas sur cette voie-là, monsieur Mathé. On parlait de Rams Magal, c'est ça?
Franchement, Messi, il serait plus heureux à Los Angeles.
Et en attendant, ils ont rien gagné sur la mer. Vous avancez un peu.
Il aurait la vue sur la mer, Messi, à Los Angeles, il serait mieux. Hein, parce que ça lui manque.
Ah, c'est peut-être son futur plan de carrière, on va savoir. La passerelle est peut-être là entre les deux équipes.
C'est vrai. Greg, alors du coup, moi, je prends les Rams. Pour autre chose que le maillot et tout ça, je pense qu'en effet, la défense à l'avantage, l'expérience à l'avantage. Les Bengals sont une bonne équipe, mais encore un poil incomplète à mon sens, même si je trouve qu'ils vivent trop en fait par à-coup sur des coups d'éclat, voilà, que ce soit offensif ou défensif. Donc là-dessus, je vais plutôt aller sur les Rams. Greg,
écoute, haters gonna hate, comme dirait l'autre. Forcément, alors déjà, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, voir Matthew Stafford gagner le Super Bowl, ce serait super. Ce qui ne veut pas dire que une victoire des Bengals ne le serait pas, hein, je précise tout de suite. Mais oui, il y a beaucoup d'éléments qui font que voilà. Déjà, les Rams, je l'avais dit en fin de saison régulière, c'est une équipe qui, pour moi, allait sentir le sang en playoff. Je ne les vois pas aller au Super Bowl et se dire ouais, on va gagner tranquille, les gars. J'y crois pas. Les mecs, il y en a qui ont vécu trop d'échecs perso pour se dire maintenant, on a galéré et tout, on va pas aller la chercher celle-là. Donc j'y vais sur les Rams. Ça va être plus serré qu'on ne le pense. Enfin, en tout cas, que ce que certains peuvent penser. Parce que je vois pas les Rams ultra favoris, mais oui, Los Angeles de mon côté.
Deux Rams et un Bengals. J'aime bien comment on voit l'influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur notre manière de présenter les émissions maintenant, parce que Greg, quand il pronostique quelqu'un, est obligé de dire « ça veut pas dire que je déteste les autres, je vous promets ».
C'est ça. Ah non, mais il faut prendre des pincettes maintenant, faut ménager la chèvre et le fou.
Faut y aller doucement. Donc deux Rams, un Bengals, ça va être un superbe Super Bowl. On termine avec les cotes. Pour la dernière fois de la saison, les cotes de notre partenaire Unibet. Messieurs, c'est assez simple, il n'y a qu'un seul match. 2,70 sur les Bengals, 1,50 sur les Rams. Victor, tu ferais une bonne affaire si ça se...
Ah bah, moi, il n'y a pas de problème. Les Bengals mènent à mi-temps, les Bengals gagnent le match. Voilà, vous cumulez ça, ça doit faire 4 ou 5.
Ouais. Okay, mènent à la mi-temps pour toi.
Mènent à la mi-temps.
Ah mais moi, je vous dis, vous n'êtes pas prêts.
Alors attends,
vous souvenez de Broncos Seahawks?
C'est vrai.
Le mec qui s'enflamme, tu sais. Il imagine alors, déjà à 40-0.
Bengals mi-temps, Bengals fin de match, c'est 3,75. Très belle cote.
Très bien.
Très belle cote, le 3,75.
Non, mais pour le coup, hein, j'en rigole, mais il faut quand même se rendre compte que l'attaque des Broncos qui devait tout casser a marqué 6 points, l'attaque des Rams qui devait tout casser il y a 3 ans a marqué 3 points. On a déjà vu au Super Bowl des attaques s'autodétruire.
Tu sais quoi? Je vais te faire le scénario encore plus dingue. Sur ce qu'on a vu en playoff, hein, les Rams commencent fort, ils mènent à la mi-temps. Sean McVay commence à se tendre un petit peu. Joe Burrow se relâche. Les Bengals gagnent à la fin. Donc, si tu fais un Rams mi-temps, Bengals fin de match vainqueur, c'est une cote à 9,55.
Tu m'as dit combien pour Bengals mi-temps plus fin de match?
Mi-temps fin de match, c'est 3,75.
La différence me paraît énorme.
Ah bah, si les Rams mènent à la mi-temps, on peut estimer qu'ils vont au bout, donc la cote est beaucoup plus grosse, ouais. Bengals mi-temps, fin de match, c'est 3,75, et Rams mi-temps, Bengals fin de match, c'est 9,55. C'est un scénario un peu fou, mais on l'a vu avec les Chiefs, les Bengals l'ont fait aux Chiefs. Donc ça peut être pas mal. Le total de points. Hop là, non, alors attendez, je me suis gouré de. Ça, c'était en première mi-temps. Donc, en direct, après le direct Rams à 1,50 est pas mal. Le direct, si vous êtes un peu foufou et que vous voulez jouer la prolongation, la cote est à 16. Je le notifie. Marqueur de touchdown. Est-ce que vous avez un marqueur de touchdown qui vous vient? Parce que maintenant, on peut jouer sur les doublés aussi, hein, sur les marqueurs de touchdown chez Unibet.
Joe Mixon pour moi.
Joe Mixon, alors tu peux jouer par exemple qu'il en marque deux ou plus.
Non, un, ce sera déjà bien. Calmons-nous.
Une cote à 36.
Alors,
marque 18 touchdowns avec exactement 31 portées alors, pour 217 yards et demi.
Alors écoute, s'il en marque deux ou plus, c'est 7,50, je vous les donne. Par contre, Joe Mixon marque et son équipe gagne, parce que vous pouvez aussi faire des combos comme ça. Joe Mixon marque et son équipe gagne, la cote est à 5,10. Voilà, je vous donne.
Moi, j'ai un truc un peu tiré par les cheveux. Vas-y. Mais je sens bien une position goal line pour les Bengals où Joe Burrow va marquer lui-même au sol.
Joe Burrow, ah ouais, pas mal ça. Pas mal.
Et du coup, si tu veux faire un doublé de marqueur de touchdown, ouais, je dirais Joe Burrow Cooper Kupp.
Joe Burrow Cooper Kupp, c'est pas mal.
Pour
c'est
faire un mal. Côté un peu moins surprenant, parce que là, Cooper Kupp, je pense, sera un des moins bien cotés de par la possibilité qu'il aurait de marquer un touchdown dans son match-up. Mais ouais. Pourquoi pas Joe Burrow au sol, éventuellement, vu qu'il a montré une certaine faculté à être mobile et à se dégager de la pression, why not?
Bon, en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paris à faire chez Unibet sur ce match. Vous pouvez parier sur la première équipe à marquer 10 points, la première équipe à marquer 40 points si vous pensez qu'il y a une équipe qui va y arriver. Le résultat donc à la mi-temps, enfin, il y a vraiment plein, plein de choses. Les points à la mi-temps.
La durée du show de mi-temps, non, il n'y a pas.
Non, ça, il n'y a pas.
Ça, c'est aux États-Unis.
Ouais, ça, en France, ça ne se fait pas.
Ça manque, il faut le dire.
C'est vrai. Donc voilà, mais le quart temps où il y aura le plus de points, par exemple, si vous pensez qu'il y aura plus de points dans le premier quart, la cote est à 6,90. Voilà, je vous la donne. En tout cas,
il y a plus beaucoup... dans le deuxième. Je sens le deuxième.
Et ben dans le deuxième, la cote est à 2,62. Voilà, tu le sauras. Là, je sais pas, moi, troisième, j'aime bien. Le troisième est à 5,85.
Ah, le troisième, c'est toujours un. Ouais. Le troisième, c'est le carton du pauvre. Faut le savoir.
Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je mise jamais sur le troisième. Ouais. Jamais okay. d'avis.
Moi, je milite pour qu'on passe directement du deuxième au quatrième.
Bon, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, c'était les coachs. Il y en a plein. On vous invite à aller donc chez notre partenaire Unibet. Il y a plein de liens sur le site. Évidemment, jouez de manière raisonnable et fixez-vous des limites. Merci à Unibet de nous avoir soutenus d'ailleurs pendant toute la saison puisque c'était les dernières cotes. Merci beaucoup à vous deux, Greg. Merci beaucoup, Victor, pour ces trois émissions preview. Nouveau dispositif exceptionnel. On vous rappelle des émissions en live encore à venir sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/TDActu, le grand quiz. Si vous nous écoutez mercredi, le quiz sera le mercredi soir. Et puis, il y aura Lucas en direct de Los Angeles, toujours sur la chaîne Twitch. On verra, on vous mettra peut-être le replay en podcast, mais en tout cas, il sera sur Twitch et YouTube. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que se termine l'épisode 487. Merci encore à vous deux. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Les réseaux sociaux, c'est @TDActu pour Twitter et Facebook et @TouchdownActu en entier pour Instagram. @TieloRadioSa pour Greg sur Twitter. @VictorRoulier pour Victor et toute l'actu de la NFL sur TDActu. Merci beaucoup à tous. On se retrouve lundi en podcast pour le débrief du Super Bowl. Ce sera avec l'équipe au grand complet. Merci beaucoup, messieurs. Bon Super Bowl à tous. Ciao, ciao.
Merci, au revoir.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.